Bonjour à toutes et à tous, il est 6h. Nous vous invitons à suivre le journal de ce matin avec Chris Roy-Jordan Badingbe. Chris Roy, bonjour.
Bonjour Christianel Dimango, bienvenue à tous dans cette édition. Le sommaire, plus de 400 combattants des groupes armés UPC 3R ont déposé les armes après la signature de l'accord avec le gouvernement. Une annonce de la commission DDRR, des précisions au début de cette édition. La liste électorale définitive sera publiée le 29 août prochain. La déclaration a été faite hier par le ministre de l'administration du territoire, Bruno Yapandé. Et puis, la montée du harcèlement et des violences sexuelles à Boire inquiète les organisations de défense des droits de l'homme. Une table ronde a été organisée cette semaine sur ce sujet. En sport football, les Fofs de Bazo-Bouangui ont été battus hier par les Étalons du Burkina Faso 4-2 lors de leur premier match du championnat d'Afrique des Nations.
Après la signature de l'accord de paix entre le gouvernement et les deux factions rebelles 3R et UPC le 19 février à N'Djamena, les opérations de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement se poursuivent sur le terrain.
On en parle avec Bonaventure Ngumba Katikiro.
Les récentes opérations de désarmement se concentrent actuellement sur les localités de Maloum dans la Waka et de Kouy dans l'Ouampende. Toutefois, une question revient avec insistance chez de nombreux Centrafricains. Combien de combattants ont réellement déposé les armes? Jules Gauthier-Ngbapo, responsable de la communication à la commission DDRR, donne quelques chiffres.
Les dernières opérations en cours sont celles de Maloum et de Kouy. Plus de 400 ex-combattants ont accepté de se faire désarmer. Ça concerne majoritairement des UPC, de Ali Darassa. Un bilan mis par cours, au niveau de Maloum, plus de 200 combattants UPC, des anti-Baraka. Certains sont venus de loin, de Alindao, de Bombari, de Grimari, avec leurs armes de guerre. Remettre de manière générale, si on prend les deux opérations maintenant en cours, Maloum et Kouy, ça concerne les groupes armés UPC, 3R et les anti-Baraka. Parce que UPC a signé un accord avec le gouvernement centrafricain à N'Djamena. 3R aussi a signé un accord avec le gouvernement centrafricain à N'Djamena.
Toutefois, beaucoup de Centrafricains déplorent une lenteur dans les opérations du DDRR. Jules Gauthier-Ngbapo appelle au respect de l'accord.
Je parle plutôt du respect des critères d'éligibilité. Ils ont signé un accord avec le gouvernement. Un accord de 2015, il y a un accord de 2019 et maintenant un autre de 2025. Ils sont appelés à respecter cet accord. Donc, un, appartenir à un des groupes armés signataires. Deux, déposer une arme de guerre fonctionnelle ou réparable.
Certains observateurs s'interrogent sur le silence des autorités centrafricaines concernant le volet rapatriement du processus DDRR, particulièrement en ce qui concerne les leaders étrangers de certains groupes armés. Si le désarmement, la démobilisation et la réinsertion sont souvent évoqués, le sort des combattants venus d'ailleurs reste flou.
Merci à Bonaventure Ngumba Katikiro. Sur cette question, vous suivrez à la fin de cette édition Jules Gauthier Ngbapo, chargé de communication de la commission DDRR à la fin de cette édition.
Entre-temps, suite à la volonté de désarmement exprimée par les 120 éléments de l'UPC le 21 juillet dernier à Sido dans l'Amfafa, la MINUSCA apporte des précisions.
Selon son porte-parole par intérim Joël Ndoli-Pierre, la mission a reçu une demande du gouvernement pour l'appuyer dans ce processus de désarmement. Annonce faite hier lors de la conférence de presse hebdomadaire de l'institution à Bangui. Joël Ndoli-Pierre est au micro de Amit Tidiani.
Nous avons en effet reçu une requête du gouvernement pour l'appui des prochaines étapes du processus de désarmement, démobilisation et réintégration des ex-combattants dans ce site, mais également d'autres sites qui sont à l'étude. Actuellement, les équipes à la fois du gouvernement et de la MINUSCA sont en train d'en faire l'évaluation, tenant compte des besoins techniques et logistiques nécessaires. Donc, effectivement, il y a eu une mission conjointe avec les autorités locales qui a été menée à Kété-Sido le 1er août. Et donc, ces rencontres permettent vraiment de maintenir un dialogue permanent avec ces éléments et d'évaluer les besoins avant l'arrivée des équipes techniques de l'UEPNDDR, qui est au fait l'organisme officiel en charge, qui est le seul programme national de désarmement, puisse arriver pour procéder aux opérations de désarmement et de mobilisation à proprement parler. Donc pour l'instant, il y a une volonté, maintenant, de pouvoir procéder aux opérations en tant que telles.
Le gouvernement annonce la publication de la liste électorale définitive le 29 août prochain.
Cette annonce a été faite hier par le ministre de l'administration du territoire lors d'une rencontre avec les professionnels de Media Bangui. Selon Bruno Yapandé, le processus électoral avance bien malgré quelques difficultés. Il est au micro d'Alexia Félix Yangmandi.
Il n'est aujourd'hui un secret pour personne que le processus électoral en cours dans notre pays, en vue des prochaines élections, est bel et bien une réalité et se poursuit sans désemparer. Parmi les électeurs, validés, enrôlés en 2025, il y a 389 602 hommes et 360 287 femmes. Dans ce contexte, le gouvernement, avec l'ensemble des partenaires techniques et financiers, s'engage à continuer à apporter tous les appuis nécessaires à l'Autorité nationale des élections pour la mise à disposition in fine d'une liste électorale définitive, fiable et inclusive, gage de la réussite de l'organisation des prochaines élections groupées. Sur le plan du cadre juridique, une légère retouche dans le cadre d'une démarche dérogatoire sera apportée à certaines dispositions du code électoral.
Le corps sans vie de l'une des victimes de la noyade survenue samedi dernier dans le village Gbama, situé à 40 km de Bukaranga, a été repêché hier.
Une femme emportée par les eaux reste toujours portée disparue sur place. La circulation routière est impossible sur l'axe Bukaranga-Man à cause de la dégradation de la route. La navigation sur la rivière est également à l'arrêt en raison de la montée des eaux. Juvenal Baramia, témoin de la scène, revient sur les faits au micro de Peggy Gertrude Sereno.
Nous étions arrivés dans la localité depuis samedi, mais ce n'est qu'hier que nous avons découvert le corps sans vie. C'est donc 4 jours après le drame que nous avons retrouvé le cadavre sous l'eau aux environs de 16 heures. Nous avons enterré le défunt peu après, car l'endroit est situé en pleine brousse à environ 8 km. Nous déplorons le manque d'intervention des services de l'État pour secourir les victimes. Il y a un sous-préfet à Man et des gendarmes sont en poste. Malheureusement, aucun d'eux ne s'est déplacé pour gérer cette situation. Nous avons alerté les services publics dès samedi, mais ni dimanche, ni lundi, ni mardi, personne n'est venu. Seule une partie de la jeunesse est venue nous prêter main forte. Nous regrettons aussi l'absence d'un pont sur la rivière. S'il y en avait eu un, ce drame ne se serait probablement pas produit. Nous demandons donc l'installation urgente d'un bac ou d'un pont sur cette rivière afin d'éviter que de telles catastrophes ne se reproduisent.
À Boire, dans la Nanamambéré, les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent de l'ampleur des violences sexuelles en milieu scolaire.
Face à cette situation, l'association Planète Jeune Conscient APJC a organisé cette semaine une table ronde. L'objectif est de renforcer la protection de l'enfance dans les établissements scolaires. Bilios Pijamé Abo.
Cette rencontre a réuni les défenseurs des droits humains en présence des autorités locales. L'APJC alerte sur l'ampleur du harcèlement sexuel et des comportements déviants dans plusieurs établissements de la sous-préfecture de Boire. Marie Mongonou, représentant personnel du coordinateur de l'APJC, s'exprime.
Quelque part, on accuse que c'est les parents qui sont à l'origine. D'autre part, on dit que c'est les élèves eux-mêmes. Parfois, c'est les enseignants. Donc, à travers les expériences vécues dans les établissements ou dans le milieu communautaire, ces participants vont nous dégager ce qu'ils pensent. Et à base de ce que nous allons recenser, nous allons organiser des planifications, des travaux, des activités, que nous allons faire des descentes sur le terrain, dans les différentes communes, dans les différents établissements, pour passer des messages clés.
Les organisations locales réaffirment leur engagement à dénoncer les cas de violences sexuelles en milieu scolaire pour que les auteurs soient poursuivis. Emmanuel Ngaliboy, président de la plateforme des droits de l'homme de la Nanamambéré.
Ce projet-là est positif par rapport à cela que nous allons faire une seconde on appelle une continuité de ce projet, de remonter les informations de violations des droits humains qui se font au niveau des établissements scolaires, surtout aux côtés de nos filles qui n'ont pas l'autorité d'avoir l'accès au niveau des écoles.
La loi centrafricaine est claire. Toute forme de violence sexuelle est sévèrement punie. Maître Gervais Souembo, avocat au barreau de Centrafrique à Boire, rappelle la loi.
En matière d'infraction pénale, il n'y a pas d'arrangement à l'amiable en matière pénale. C'est la loi qui s'applique et l'auteur doit être interpellé et mis en prison, condamné. Donc il n'y a pas d'arrangement à l'amiable en matière de violence sexuelle ou en matière d'infraction pénale.
Ces violences ont des conséquences graves. Déperdition scolaire, mariage précoce, traumatisme physique ou psychologique. Pourtant, de nombreux auteurs échappent encore à la justice. Boire, Berios, Benjamin Abo, Radio Ndeke Luka.
Le Premier ministre sénégalais Ousmane Sonko a entamé hier une visite de 5 jours en Turquie.
Ousmane Sonko est arrivé hier à Ankara, la capitale turque, pour une visite officielle de 5 jours à l'invitation du président Recep Tayyip Erdogan. Les deux hommes doivent d'ailleurs se rencontrer aujourd'hui dans l'après-midi pour évoquer les partenariats entre les deux pays dans de nombreux domaines. Le Premier ministre sénégalais est accompagné d'une importante délégation ministérielle. 5 ministres au total, dont Abdourahman Sarr, ministre de l'économie du plan de la coopération, Biram Souley Diop à l'énergie, au pétrole et aux mines, ou encore Madouba Diagne, chargé de l'agriculture, de la souveraineté alimentaire et de l'élevage.
En République démocratique du Congo, le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, a franchi hier une étape clé.
Oui, Chris, devant la Cour de cassation, plusieurs témoins ont été entendus hier pour éclairer les juges. Une audience tendue marquée par une récusation. Constant Mutamba a mis en cause deux magistrats, accusant notamment le président de la Chambre et le juge Thomas Otshudi de menaces et intimidation. Après avoir appris qu'il était récusé, le président de la Chambre s'est lui-même retiré à travers une lettre lue à l'audience ce mercredi 6 août.
Le football, la République centrafricaine a perdu hier à son premier match du championnat d'Afrique des Nations CHAN face au Burkina Faso.
4-2 en faveur des étalons du Burkina Faso, même si les Fauves n'ont pas démérité. Retour sur cette rencontre avec nos envoyés spéciaux à Dar es Salaam, Nathan de Saint-Stéphane Ngombe et Théonès Punika.
C'est un match qui a tenu toutes ses promesses avec la République centrafricaine qui découvre pour la première fois cette grande compétition africaine réservée aux joueurs locaux. Bien que les Fauves de Bazoubangui aient subi une défaite suite à des erreurs défensives, les jeunes centrafricains ont démontré un niveau de jeu respectable, affichant une possession de 53% contre 47% face au Burkinabé. Au cours de la première partie de la rencontre, l'équipe de Sébastien Gatto s'est montrée solide avec un score d'un but partout. Cependant, la situation a tourné en faveur de leurs adversaires lors de la seconde période où ils ont concédé jusqu'à 3 buts. Le capitaine centrafricain Chérubin Bassé estime que tout est encore possible.
On s'était préparé à venir remporter ce match. Dommage qu'on l'a perdu. Nous allons tout faire pour nous rattraper dans les 3 matchs restants. Il suffit juste de corriger certaines imperfections offensives afin de marquer des buts. C'est ce qu'on fera lors des matchs suivants.
Le technicien centrafricain Sébastien Gatto reconnaît les failles de son équipe et se fixe déjà des objectifs pour les prochaines rencontres.
On a pêché par rapport à nos propres éléments. C'est arrivé. Ils ont concédé 3 buts qui n'étaient pas les leurs. Mais nous allons continuer de travailler parce qu'on a encore 3 matchs à jouer. On verra aussi ce que ça va donner pour notre équipe.
L'entraîneur des étalons du Burkina Faso, Issa Balboni, a souligné qu'il s'est confronté à une très belle équipe centrafricaine. Mais pour lui, l'objectif est de remporter ce match.
Il fallait gagner d'abord, quelle qu'en soit la manière. Il y avait un peu la pression sur nous un peu. Ce sont des jeunes, je les ai parlé. Ils ont compris que c'est une affaire de la nation. Il fallait vraiment gagner, quelle qu'en soit la manière.
Actuellement, la République centrafricaine se positionne à la dernière place du groupe B avec 0 points, tandis que la Tanzanie renforce sa position de leader en totalisant 6 points après sa courte victoire hier contre la Mauritanie. La troisième place revient à Madagascar, 1 point, et la Mauritanie est quatrième avec 1 point également. Dar es Salaam, Théoneste Punika, Nathan de Saint-Stéphane Ngombe, Radio Ndekeluka.
Merci à vous Théoneste. Dans l'autre rencontre d'hier, la Tanzanie, qui est l'un des pays organisateurs, a enregistré sa deuxième victoire en 2 matchs en battant la Mauritanie 1-0. Deux matchs sont prévus aujourd'hui. À 13h, la RDC joue contre la Zambie et à 16h, l'Angola affronte le Kenya. C'est la fin de cette grande édition. Merci à vous de l'avoir écoutée.